It's Morning Edition from NPR News.
Das sieht hieß an ihm bei Haus.
France Inter, le 18-20.
Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Boris Johnson accumule les déboires à l'intérieur de son pays. Les fêtes de Noël dernier, ça ne passe pas. Le variant Omicron, ça le dépasse. Il l'agace, il inquiète ses amis politiques. Avant un vote important au Parlement, une élection aussi très scrutée jeudi. On y vient dans un tout petit instant. Le bruit du monde est en Chine et vous vivrez de l'intérieur. Ce que veut dire une quarantaine dans le pays qui ne laisse passer ni rien ni personne et entend toujours conserver son zéro Covid. Le bruit du monde, la suite. Sous les radars, Sébastien Logénie a trouvé la mort du Frank Sinatra. Mexicain, une célébration chinoise encore qui passe mal à Hong Kong et super moustache au Venezuela. 18h50, le monde de Joe Biden avec une photo qui voyage, soufflée par les tornades et les portes qui claquent aussi à la télévision. 18h55, c'est le monde d'après de Jean-Marc Four après la visite d'Emmanuel Macron. Tout compte fait, il n'a pas l'air si méchant, ce Viktor Orban. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Dès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Thibault Arroy.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence en civilisation britannique à l'université Sorbonne Nouvelle. Richard Place va nous rejoindre dans un tout petit instant. Je le disais tout à l'heure, Thibault Arroy, Boris Johnson est arrivé triomphalement au pouvoir. C'était il y a 2 ans. On est quasiment jour pour jour. Et aujourd'hui, on a l'impression d'avoir assisté, en tout cas assez brutalement, à une dégringolade terrible. On a l'impression qu'il n'y a vraiment pas de planète alignée pour Boris Johnson. Est-ce qu'on est vraiment dans une zone de danger pour ce Premier ministre ou pas?
Alors oui, comme vous le rappelez, il a été donc il a gagné les élections de décembre 2019 après être devenu Premier ministre en juillet 2019. Et en réalité, les planètes sont pas alignées, mais parce qu'il a aussi créé les conditions dans lesquelles il se trouve aujourd'hui. C'est-à-dire que le Brexit, c'est quand même lui qui a fini de le négocier. Donc l'accord qui est entré en vigueur en janvier dernier, c'est l'accord qu'il a négocié, qu'il ne veut pas respecter. Donc ça, c'est le début déjà de complications pour lui. Il a été élu avec le soutien en partie d'une population qui auparavant votait travailliste. Mmh. Aujourd'hui, il doit contenter cet électorat. Mais en même temps, il y a aussi tout l'électorat libéral qu'il doit aussi contenter. Donc là aussi, on voit une contradiction dans ses soutiens et donc une difficulté à contenter cet électorat divers et contradictoire. Il y a aussi les problèmes que vous avez évoqués de gestion de la crise de la Covid-19. C'était effectivement une crise qu'il a eu du mal à gérer avec d'abord une stratégie...
Ça a été une gestion très en dents de scie pour ce qui est des Britanniques.
Voilà, exactement, avec des divisions même à l'intérieur du pays entre les différentes régions et les conséquences du Brexit qu'il faut également assumer. Donc si on ajoute à cela toutes les bourdes que vous avez également mentionnées, c'est vrai qu'on a l'impression qu'aujourd'hui il est en pleine dégringolade et qu'il sera difficile pour lui de redresser la situation.
Parce qu'il y a des tas de choses auxquelles on a finalement nous échappé, mais que les tabloïds, avec lesquels les tabloïds jouent toute la journée et qui sont dans l'atmosphère britannique, il y a eu des soupçons de corruption, il y a eu l'affaire d'un de ses amis, on y reviendra parce qu'il est lié à l'élection à venir, qui a pris de l'argent de lobbyistes qu'il n'aurait pas dû prendre, il y a eu des frais de rénovation, il y a eu ces histoires de fêtes qui visiblement ne passent pas dans l'opinion. Au fond, l'impression que ça laisse, c'est que le côté un peu flamboyant et foutraque de ce Premier ministre qui, au début, a pu plaire à certains, commence à les agacer terriblement. C'est aussi une question de personne qui se joue là-dessus, Thibault Arroy, ou pas?
Oui, je pense que la question de personne ne peut jamais être complètement évacuée, même si je rappelle qu'au Royaume-Uni, on ne vote pas directement pour élire le Premier ministre. On vote pour élire son député, son membre du Parlement.
Mais en général, on sait qui va venir lorsque, là, en l'occurrence, on savait très bien que c'était sa place à lui qui était en train d'être libéré.
Tout à fait, voilà. Donc, Boris Johnson a pu plaire, a pu séduire pour ce caractère, comme vous avez dit, foutraque, mais en réalité, c'est quand même quelqu'un qui, depuis le début, attire aussi des critiques pour ce même caractère versatile. Mmh. On ne sait jamais vraiment sur quel pied danser avec lui. C'est quelqu'un qui a été en plus éduqué à Eton, donc tout ce qu'une partie de l'électorat aussi rejette, une éducation à l'ancienne, avec des liens très forts avec les milieux de la finance. Donc on ne sait pas si véritablement il a séduit. C'est vrai que les médias ont beaucoup aimé ses saillies, mais c'est aussi quelqu'un qui est difficile à lire et qui a pu, comme ça, ruser parce que il a su tirer un peu à droite, tirer un peu à gauche, mais dans ce discours populiste, au final, il manque une stratégie claire, et c'est ça qui fait défaut véritablement au Royaume-Uni depuis son élection.
Mais est-ce que ça veut dire, parce que les conservateurs, ils savent faire ça, ils l'ont déjà fait à plusieurs reprises, la dernière, Theresa May a payé pour le comprendre, est-ce que ça veut dire qu'il pourrait être remplacé dans son propre camp, qu'on pourrait dire à un moment chez les conservateurs, c'est un boulet en fait, ce Boris Johnson. Alors ok, on est loin de la prochaine élection, mais enfin quand même, c'est un boulet, donc on va s'en débarrasser. Est-ce que c'est dans l'air ça ou pas?
Alors c'est une possibilité, on en entend parler de temps en temps, en particulier en ce moment, évidemment, suite aux dernières déclarations, on l'a vu en difficulté. Mais en réalité, bon, c'est vrai que l'élection n'étant prévue, a priori, qu'en 2024, il n'y a pas d'urgence à le remplacer. Et en plus, il n'y a vraiment personne.
On peut l'user jusqu'à la corde, en fait, en attendant.
Mais j'ai l'impression que personne ne veut sa place, de toutes les manières, qu'il n'y a pas de candidat évident pour sa succession. On parle de certains ministres qui pourraient, ou certaines ministres qui pourraient prendre la relève. Mais en réalité, personne n'est capable de recueillir le soutien d'une majorité au Parti conservateur, de là à renverser le Premier ministre et remplacer ce Premier ministre par quelqu'un d'autre au sein du parti. Pour l'instant, il n'y a pas d'évidence là-dessus.
Et il a de la chance aussi que le Parti travailliste en face ne se soit pas réellement reconstitué encore, et encore du travail de ce point de vue-là pour aller effectivement jusqu'aux élections dans 2 ans n'est pas trop audible. Est-ce que c'est ça aussi la raison pour laquelle, pour l'instant, les conservateurs font pas de révolution à l'intérieur de leur propre parti?
Oui, ça aussi, c'est à prendre en compte, en effet. L'opposition travailliste a été terriblement divisée quand Jeremy Corbyn était à la tête du parti. Aujourd'hui, Keir Starmer essaye de redresser le parti, mais c'est quelque chose qui n'est pas fait. On voit que c'est aussi quelqu'un qui a du mal à s'affirmer, quelqu'un qui a du mal à prendre la place comme leader de l'opposition véritablement au sein du Parlement, mais aussi dans le pays, pour reconquérir l'électorat travailliste qui a été perdu. Et on sait que déjà pendant la période Brexit, négociation, le parti travailliste a été en retrait. Et aujourd'hui, alors que tout est à reconstruire, ils ont du mal à proposer une véritable alternative.
Alors, vous nous l'avez dit, Thibault Roy, il y a ce passage Omicron qui, effectivement, est très compliqué pour Boris Johnson. Peut-être que ce sera pour nous bientôt, d'ailleurs, avec des mesures qui doivent normalement passer devant le Parlement demain. Bonsoir, Richard Place.
Bonsoir.
Vous qui êtes sur place à Londres, correspondante de France Inter, Richard. On dit que c'est un test pour lui, notamment d'ailleurs dans l'histoire du pass sanitaire. On verra si, juste pour le déstabiliser, certains conservateurs décident de ne pas l'aider et de voter contre ces mesures anti-Omicron. On regarde ça aussi, en tout cas demain.
Oui, c'est un test pour lui, et ça illustre bien tout ce que vous venez de dire là à l'instant, parce que ce pass sanitaire, il va être introduit, en tout cas il veut l'introduire pour la première fois au Royaume-Uni depuis le début de cette crise sanitaire. Il ne l'a pas fait jusqu'ici parce qu'il sait que ça touche au logiciel des conservateurs. On vient là toucher à la liberté de se déplacer, d'agir, d'entreprendre, et pour les conservateurs, la liberté prime sur tout le reste. Alors ce dispositif, il va à l'encontre de leurs principes, et on dit que aujourd'hui, ce soir, un peu plus de 70 députés conservateurs pourraient voter contre ce dispositif demain. Il n'empêche, ce texte passera parce que les travaillistes vont voter pour eux. Mais pour Boris Johnson, s'il a fait adopter ce texte avec l'opposition seulement, c'est évidemment pas terrible. Il doit limiter la casse. Et comme il est habile, comme on l'a vu sur tout ce que vous venez d'énumérer, à chaque fois il arrive à rebondir. Il a déjà commencé à prévoir le coup et il va morceler le texte demain pour que le vote se fasse entre toutes les différentes mesures. De cette manière, ses amis pourront s'exprimer et pourront exprimer leur défiance sur le pass sanitaire. Mais ils vont valider tout le reste, et donc l'affront sera moins visible. Boris Johnson, c'est vraiment un animal politique. Sa colonne vertébrale va dans tous les sens, il souffre d'une sérieuse scoliose, mais il arrive à bien se faufiler.
Et merci beaucoup Richard, merci vraiment Thibault Roy, il a une vraie scoliose, effectivement, et alors c'est très finaud ce que nous raconte Richard. L'idée à la fois de laisser certains conservateurs dire, ok, vous n'êtes pas d'accord avec moi en ce moment, très bien, vous pouvez voter à côté, de toute façon ça passera grâce aux travaillistes, le reste on le morcelle. C'est aussi comme ça qu'il a plus de vie qu'un chat quand même, ce Premier ministre, non ?
Oui, en effet, il a une carrière politique qui est déjà longue. Sa vie est en quelque sorte derrière lui, en réalité, mais il a réussi à construire cette carrière en jouant sur des alliances parfois surprenantes et en choisissant parfois au dernier moment, même dans quel camp il allait se situer, pour sentir le vent tourner et profiter de l'occasion au moment où elle se présentait. Mais ce qu'on vient de rappeler là est important aussi sur les divisions au sein du Parti conservateur, parce qu'en réalité, ce qu'on constate, c'est que les conservateurs sont divisés sur leur droite, mais pas prêts à faire une alliance avec les travaillistes. Au contraire, ce sont les travaillistes qui, paradoxalement, vont sauver Boris Johnson dans ce vote, puisqu'il va laisser une liberté à certains de ses députés, et finalement noyer cela dans la division des votes. Donc finalement, il va pouvoir sortir de cet épisode, et le Parti conservateur ne risque pas de le renverser sur cette question-là.
Il y a un autre test à venir, et qui est peut-être d'une autre importance, là vraiment, ce sont des élections partielles qui vont avoir lieu dans les Midlands, dans une circonscription qui est tenue précisément par cet ami de Boris Johnson, qui a dû démissionner parce qu'il avait approché l'argent d'un lobbyiste de beaucoup trop près. C'est conservateur depuis plus de 40 ans, cette circonscription. Est-ce que là, pour le coup, c'est un vrai test? On dit que les libéraux 2-0 sont à ça de l'emporter. Et qu'est-ce que ça voudra dire à ce moment-là réellement?
Alors, bon, les élections partielles sont toujours vues comme des tests. Mais il faut quand même pas exagérer l'importance, puisqu'on est, encore une fois, à 2 ans des élections générales. Donc, finalement, il y a de l'eau qui va couler sous les ponts. Les libéraux-démocrates, en plus, ne sont pas non plus l'opposition principale du Parti conservateur. C'est un parti qui a finalement assez peu d'élus au sein du Parlement, et donc qui ne va pas risquer de renverser ou de poser des difficultés à la majorité.
Mais ce qui permet aussi aux électeurs de ne pas voter travailliste, justement.
Exactement, oui. Donc les libéraux-démocrates restent un parti du centre, avec dans certaines circonscriptions des candidats qui en plus ont plutôt une affinité centre-droit. Donc finalement, c'est vrai que pour les électeurs, il y a plus d'attrait pour ce parti qui est vu comme un parti modéré, et c'est une occasion de ne pas donner des voix en effet au parti travailliste, puisque comme vous l'avez dit, c'est une circonscription extrêmement conservatrice, un siège...
Un fief, peut-être.
Qui est conservé par...
Est-ce que vous diriez, Thibault Arroy, que la fragilité de Boris Johnson à l'intérieur est compensée justement par les guerres en ce moment autour du Brexit? Je pense par exemple à la nôtre, la guerre de la pêche. Est-ce que, qui est vraiment là dans le corps du Brexit, et même d'ailleurs dans l'affaire des migrants, est-ce que plus il est dur là-dessus, et plus c'est compliqué dans nos négociations, plus il gagne des points qu'il est en train de perdre pendant ce temps à l'intérieur de son propre pays?
Oui, Boris Johnson, c'est le Premier ministre du Brexit. Il a fait campagne en 2019 sur ce thème. Et donc, revenir à cette question fondamentale, c'est faire un clin d'œil à son électorat. Donc, quand il est en difficulté, finalement, rien de mieux qu'une bataille avec la France, rien de mieux qu'une opposition avec l'Union européenne, pour rappeler qu'il est celui qui, en tout cas, c'est ce qu'il souhaiterait faire passer comme message, celui qui défend les intérêts des Britanniques face à une Europe qui voudrait empêcher les Britanniques de retrouver pleinement leur souveraineté, face à la France qui abuserait sur ses droits. Et donc ça, c'est quelque chose qui marche toujours, ou en tout cas que Boris Johnson espère faire toujours marcher.
Est-ce que vous avez l'impression qu'il a poussé même l'inimitié avec la France, qui est un thème éternel entre les Britanniques et nous, précisément pour pouvoir se rendre service à l'intérieur de son propre pays?
Je sais pas si on peut aller jusque-là, mais en tout cas, il a réussi à en faire un objet médiatique. Et en tout cas, la question de la pêche, si on regarde son importance réelle pour l'économie britannique,
oui, c'est pas grand-chose.
Par contre, l'importance politique de ce débat, en effet, on peut y voir quelque chose qui sert les intérêts de Johnson. Donc oui, c'était présent et il en a fait usage pour renforcer sa popularité.
Est-ce qu'il a à venir une autre épine dans le pied, qui peut être une grosse épine dans le pied? Je pense à la frontière irlandaise, par exemple. Le protocole nord-irlandais, c'est toujours quelque chose d'extrêmement compliqué, toujours flou également. Est-ce que c'est ça la prochaine vraie grosse épine? Et peut-être, on parlait de test tout à l'heure, celui qui peut, là, pour le coup, être beaucoup plus dommageable pour Boris Johnson?
Tout à fait. C'est une question qu'en réalité, il a aussi semée, puisque c'est lui qui a négocié, encore une fois, l'accord de retrait. C'est lui qui a finalisé le Brexit, l'accord de coopération avec l'Europe de décembre dernier, c'est lui qui l'a signé. Et c'est lui aussi qui, par contre, a annoncé qu'il n'allait pas respecter complètement les termes de cet accord, et que finalement, c'était acceptable de ne pas complètement respecter les traités qui pourtant lient normalement un pays une fois qu'ils sont signés. Donc cette question, elle existe déjà. Pour l'instant, il annonce régulièrement qu'il va renégocier les termes de l'accord, quelque chose que l'Union européenne n'est pas prête à faire. Il va devoir finalement décider si oui ou non cet accord sera pleinement appliqué, ou alors s'il est prêt à subir les conséquences de l'absence de respect, c'est-à-dire des conséquences économiques, des conséquences pour le commerce britannique, ce qui risque d'être très difficile à assumer politiquement également.
Et il y a aussi, parce que ça vient régulièrement, un sondage récent paru qui parle de réunification. On sait bien que du côté de la République d'Irlande, pour le coup, les chiffres sont extrêmement hauts. Pas du côté de l'Irlande du Nord. Donc j'ai presque envie de dire que la partie britannique, elle reste pour l'instant préservée. Mais c'est quand même intéressant de voir monter ces chiffres-là. Est-ce que là aussi, à la faveur de cette crise-là, il va falloir gérer cette idée qui est restée comme ça en filigrane pendant toute la négociation du Brexit?
Alors on aime toujours à penser que finalement le Brexit a plus fait pour l'unification, et donc que les conservateurs seraient les artisans de l'unification plus que le Sinn Féin, par exemple, le parti nationaliste. En réalité, c'est, comme vous l'avez rappelé, la question est plus compliquée que ça. cela. Déjà, le gouvernement de la République d'Irlande est très prudent sur cette question de la réunification et ne l'aborde que très peu. Ce n'est pas le thème principal de leur politique étrangère. Et du côté de l'Irlande du Nord, il faut voir que les choses restent assez discrètes, parce que c'est une question compliquée. Donc je ne pense pas qu'on aille vers une réunification dans l'immédiat. C'est une question, par contre, qui en effet se pose plus qu'auparavant.
Une toute dernière question, puisqu'on y reviendra tout à l'heure dans le téléphone sonne. On en a parlé tout à l'heure de ce fameux variant Omicron. Vous le disiez, les Anglais ont un peu le sentiment que la gestion de Boris Johnson avait pu être un peu erratique. Est-ce que c'est un pays aujourd'hui, tel que vous le connaissez, qui se laissera faire avec le pass sanitaire de la même manière que nous, ce pass qui va être voté demain? Est-ce que c'est un pays qui est prêt à de nouvelles restrictions aujourd'hui, ou est-ce que vous diriez que c'est un pays épuisé de ça, en fait?
C'est toujours difficile de juger de l'état d'un pays dans son ensemble, mais je pense que les Britanniques ont toujours cette idée qu'il faut respecter les lois qui sont votées, ils respectent le Parlement auquel ils ont des élus, et donc on peut en effet penser qu'ils se plieront à cet exercice de montrer un pass qui pourtant est hors de leur culture, ouais. Puisque on ne montre pas sa carte d'identité, par exemple au Royaume-Uni, on n'en a pas même.
Ouais.
Donc montrer le pass sanitaire, ça sera certainement un changement culturel. Mais par contre, c'est un pays qui saura s'adapter comme tous les autres pays du monde où on a été contraint de le faire.
Un vrai pays à observer, en tout cas pour ce qui nous concerne, puisqu'on dit à chaque fois que ce qui se passe chez les Britanniques en matière de Covid nous arrive dans la quinzaine qui vient, donc on le verra. Merci beaucoup, merci vraiment de votre passage dans Un jour dans le monde avec nous, Thibaut Arroy.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès sur France Inter.
La suite ce soir, c'est le bruit du monde et c'est en Chine, pays qui se dit zéro Covid, et vous allez découvrir à quoi ressemble une quarantaine à la chinoise, et vous allez voir, ça ne fait pas du tout envie. Et la troupe qui nous emmène jusqu'à 19h, c'est d'abord Sous les radars et Sébastien Legénie.
Eh bien, on n'ira pas très loin à Hong Kong, où la commémoration d'un des pires massacres de l'histoire chinoise est l'occasion pour Pékin d'exercer de nouvelles pressions nationalistes.
Le Monde selon Joe Biden et Loïc Loury. Bonsoir Loïc.
Bonsoir, une photo de famille, Fabienne, emportée par l'une des tornades du week-end et retrouvée intacte 200 km plus loin.
Mais tout de suite, le monde d'après, Jean Marfaux, bonsoir à vous.
Bonsoir Jean-Marc. À tous, on n'y comprend plus rien. On pensait que le Hongrois Orban était le pire ennemi d'Emmanuel Macron et voilà que les deux hommes font assaut de politesse à Budapest. Finalement, il est sympa ce Orban.
Allez, à tout de suite tout le monde. Le tour de la planète n'est pas fini, il passe par Détroit dans le Michigan. Sir John Stevens, Reach Out, c'est dans la playlist de France Inter.
Now my apology, all the light came in to form in my mind. Reach out to all the ones who came before you. Ponder what is right, you and I in defiance. Speak out, speak out the conversation they afford you. Wisdom of the wise, you and I in defiance. And I come from conscience where there is no conjugation.
For you and for myself. Reach out to all the ones who came before you. Reach out to all the ones who came before you. Reach out and all at once the pain restores you. Reach out and all at once the pain restores you. All at once the pain restores you.
Le bruit du monde ce soir est en Chine, vous le savez, malgré son immensité, le pays est toujours sur une stratégie zéro Covid, ça veut dire frontières fermées, ça veut dire longue et éprouvante quarantaine pour tous ceux qui ont quand même le droit de venir sur le territoire chinois. Enfermement total, 2 à 3 semaines dans des chambres séparées, voici à quoi ça ressemble, le reste c'est Sébastien Berriot qui raconte.
Pour bien comprendre l'esprit de cette quarantaine chinoise, il faut d'abord écouter ceci. Cette alarme très puissante retentit dans tout le couloir de l'hôtel à chaque fois que vous ouvrez la porte de votre chambre, de quoi dissuader toute tentative d'évasion. De toute façon, il y a des caméras absolument partout. L'ambiance de la quarantaine avait démarré quelques heures plus tôt, au moment de l'arrivée à l'aéroport de Tianjin. Dans l'aérogare, toutes les personnes que vous croisez sont vêtues d'une tenue de protection intégrale blanche. Les yeux sont à peine visibles. Du désinfectant est pulvérisé dans l'air en permanence. Et après un long circuit sanitaire, le groupe est invité à monter dans un bus qui prend la direction de l'hôtel de quarantaine, escorté comme un convoi dangereux par des voitures de police. Dans les chambres, aux allures de cellules de prison, l'enfermement est total. Les journées sont longues. Claire est enceinte de 3 mois. Cette Chinoise revient dans son pays après un long séjour professionnel en Sierra Leone.
Au départ, j'ai vraiment profité de cette quarantaine pour récupérer du décalage horaire, puisque j'arrivais d'Afrique de l'Ouest. Pendant 3 ou 4 jours, je me suis vraiment reposée. Puis j'ai travaillé pour ma société, j'ai lu des livres, j'ai joué sur ma Switch, j'ai regardé la télé. Et j'ai aussi fait des appels vidéo avec ma famille.
Lilian, un Français qui lui vient rejoindre sa famille à Pékin.
La manière dont je le vis, c'est plus de me concentrer sur le travail, de pas avoir trop de temps pour penser. C'est simple, hein, je me lève, je déjeune, je me mets à travailler tout de suite, il n'y a pas de temps mort. Je m'arrête quasiment pas de la journée et je préfère être occupé finalement.
Chacun vit cette longue privation de liberté à sa manière. Les Chinois qui sont majoritaires dans le groupe semblent plutôt bien accepter la situation, comme Wu Zunping, 36 ans, qui rentre d'un voyage d'affaires au Maroc.
Bien sûr, pour moi personnellement, la quarantaine, c'est long. Mais cette mesure sanitaire vise à permettre aux Chinois de vivre dans un environnement sans virus. Bien que cette politique limite ma liberté avec l'impossibilité de quitter ma chambre, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est positif. Chaque pays a ses propres politiques et ses préoccupations. Le gouvernement s'arrange très bien avec la situation.
Claire, l'autre voyageuse chinoise, elle aussi se prête volontiers à cette quarantaine.
Cette quarantaine est nécessaire. C'est juste une responsabilité pour moi vis-à-vis de ma famille et de mes amis. Parce que quand on vient de l'extérieur, de la Chine, on ne sait pas si on a été contaminé ou pas par le coronavirus. Par exemple, ma grand-mère a presque 90 ans. Je ne peux pas prendre le risque de lui causer des problèmes. En plus, il y aura bientôt les Jeux Olympiques à Pékin. Alors il faut tout faire pour contrôler ce virus.
Lilian, le Français, lui, a beaucoup plus de mal à accepter cet enfermement intégral.
C'est effectivement un sentiment qui est proche de celui du prisonnier. En fait, je dirais que c'est même pire que la prison, parce qu'en prison, on peut au moins prendre l'air, on peut au moins avoir une sortie chaque jour. Là, on est vraiment dans une pièce sans pouvoir en sortir pendant 2 semaines. Donc, c'est la version punition dans la prison. Je comprends que des pays qui ont réussi à très bien contrôler l'épidémie fassent attention aux personnes qui rentrent sur leur territoire. Moi, ça me choque pas forcément comme process. Ce qui me choque et ce qui m'embête, c'est les conditions dans lesquelles on est. L'enfermement excessif de ne pas pouvoir commander de repas à l'extérieur. Les repas sont livrés juste devant la chambre. Franchement, c'est très très moyen. Et là, depuis plusieurs jours, je peux plus toucher cette nourriture, je peux même plus la regarder. J'ai perdu du poids, c'est évident.
Le quotidien des voyageurs est rythmé par un protocole sanitaire strict et très chargé avec des tests PCR, des prélèvements réguliers aussi dans la gorge qui viennent s'ajouter aux prises de sang. Les infirmières pénètrent également dans la chambre pour prélever un échantillon sur le lit, précisément sur l'oreiller pour détecter d'éventuelles traces de Covid. Et puis la veille du départ, il y a aussi un test anal réservé à tous ceux qui prennent la direction de Pékin. En effet, la capitale est ultra protégée, le protocole sanitaire est beaucoup plus strict. Pour pouvoir aller à Pékin, il faut d'ailleurs effectuer une semaine supplémentaire de quarantaine.
Quelle épreuve, Sébastien Berriot, merci beaucoup à Pékin et enfin chez lui pour un jour dans le monde. Allez, le bruit du monde, la suite, c'est l'actualité internationale passée sous les radars. Et c'est Sébastien Logeni. Sébastien, nous sommes en train de regarder la télé d'État, là, au Venezuela. Le Venezuela bientôt sauvé par un nouveau super-héros.
Mais oui, il est grand et musclé. Il survole Caracas en collant rouge et en cap bleu. Il écrase ses ennemis d'une main de fer et surtout, il porte la moustache. C'est Super Bigote en espagnol, autrement dit Super Moustache, personnage de dessin animé qui vient de faire son apparition sur la télé d'État vénézuélienne ce mois-ci et dont la ressemblance avec le président Nicolas Maduro et sa moustache n'a rien de fortuit. Voilà le premier épisode de Super Moustache. Un méchant aux cheveux blonds et aux faux airs de Donald Trump lance une attaque de drone sur le réseau électrique vénézuélien. Mais heureusement, Super Moustache est là pour sauver le pays. Un épisode qui là aussi ressemble furieusement à la réalité puisqu'une panne d'électricité géante a effectivement eu lieu pendant 4 jours il y a 2 ans au Venezuela et que le pouvoir attribue à un sabotage américain. Bref, Super Moustache, c'est la nouvelle idée de la propagande Maduro, rigolo et pathétique. Le régime Maduro aux abois depuis des années, confronté à une crise politique et humanitaire qui n'en finit pas et qui surtout est en train de perdre le soutien de sa population. Aux dernières élections, le taux de participation était le plus faible depuis 20 ans dans le pays. Alors pourquoi pas un dessin animé pour se refaire une virginité? On ne sait pas s'il y aura d'autres épisodes, Fabienne, pour l'instant. En tout cas, le premier a surtout provoqué les commentaires affligés des internautes.
Allez, propagande toujours, mais version chinoise cette fois, on y tourne.
Ouais, c'est aujourd'hui le 13 décembre et comme chaque année depuis 84 ans, la Chine se souvient du terrible massacre de Nankin en 1937, le pire épisode de la guerre entre le Japon et la Chine. Entre 40 000 et 300 000 morts selon les estimations des soldats chinois tués par l'armée japonaise, une tuerie de 6 semaines dans des conditions abominables avec des milliers de femmes et d'enfants violés, un des pires bains de sang de l'histoire que la Chine commémore donc depuis ce matin. Voilà, on entend là l'hymne chinois qui retentit en Chine continentale, mais il y a aussi une autre région où se déroulent ces commémorations, c'est Hong Kong, où Pékin, on le sait, fait désormais régner sa loi et tente d'exalter l'identité chinoise chez les plus jeunes habitants de la ville. Résultat, la semaine dernière, afin de préparer ces commémorations de cette semaine, une école primaire de Hong Kong a cru bon diffuser une vidéo de 5 minutes devant des enfants de 6 ans, montrant en détail des monceaux de cadavres et des exécutions d'enfants. Des images d'archives qui ont traumatisé littéralement les élèves, scandalisé les parents. L'école s'est excusée tout en expliquant que le clip en question était tout à fait officiel, inclus dans le matériel pédagogique suggéré par le Bureau de l'éducation de Hong Kong, autrement dit validé par Pékin.
Allez, on finit, retour en arrière avec une autre moustache, c'est celle du Sinatra mexicain.
J'ai nommé Vicente Fernandez, le plus moustachu et le plus populaire des crooners mexicains, star des orchestres mariachi, orchestre mariachi depuis des décennies, mort hier à l'hôpital à l'âge de 81 ans. Attention, extrait.
Este amor apasionado. Anda todo alborotado.
Ah, il y a de la trompette de mariachi, l'un des tubes de Vicente Fernandez, Volver, Volver, que fredonne depuis hier tout le Mexique est en deuil. Vicente Fernandez, macho assumé aux 70 millions de disques vendus, dont l'histoire se confond avec la lumière et les ombres du pays. Son fils enlevé pendant 4 mois par une bande criminelle qui lui avait même coupé 2 doigts pour demander une rançon de 10 millions de dollars. Et un autre de ses fils très proche du terrible cartel de la drogue de Sinaloa. 7000 personnes sont déjà venus se recueillir sur le cercueil et le sombrero de cette figure du folklore mexicain, Vicente Fernandez. L'enterrement aura lieu aujourd'hui.
Ah bah je voulais qu'on l'entende un mot. Ah voilà.
c'est pas tous les jours, Sébastien,
ouais,
merci beaucoup.
Pour l'enterrer une moustache.
Ça nous fait plaisir. Vous partez avec un classique des années 90 qui n'a alors, mais vraiment, rien à voir. Voici Portiched. On s'excuse auprès de Glory Box. C'est sur France Inter. Et Glory Box sur France Inter. Allez, direction New York.
France Inter, un jour dans le monde.
Le monde selon Joe Biden avec Loïc Loury. Ce soir, Loïc, on a bien vu évidemment la catastrophe de cette succession de tornades dans le Kentucky surtout, mais au moins 78 morts dans 5 États. Le président Biden, d'ailleurs, il sera après-demain mercredi. Et pour nous donner quand même une idée de ce qu'est la force du vent dans ces moments tragiques, une histoire au milieu de ce chaos, une histoire, Loïc, comme l'Amérique les adore, celle d'une vieille photo de famille.
Oui, absolument, une histoire qui commence samedi devant la maison de Katie Posten. Elle a 30 ans, elle habite Albany dans l'Indiana et par terre, eh bien, elle voit ce qui semble être une note avec un nom, Swatzel, et une date, 1942. Une fois retournée, il s'agit en fait d'une photo en noir et blanc, celle d'une femme, robe à rayures, avec un enfant sur les genoux. Alors Katie Posten sait qu'une tornade a dévasté le Kentucky voisin et elle décide donc de poster la photo sur les réseaux. L'image est partagée encore et encore, jusqu'à ce que, miracle, un Swatzel, Fabienne, Cole Swatzel se manifeste. La photo appartient à des membres de sa famille à Dawson Springs, Kentucky. C'est une ville qui a été ravagée par la tornade à plus de 200 kilomètres de chez Katie Posten. Voilà la distance parcourue par la photo, arrivée intacte chez cette dame. L'épilogue de cette affaire, la création d'un groupe sur Facebook sur lequel vous pouvez poster des photos d'objets qui auraient atterri comme cela dans votre jardin après des des tornades qui sont fréquentes, hein, il faut le rappeler, dans les grandes plaines américaines. Katie Posten, elle compte bien, dit-elle, réexpédier la fameuse photo.
Allez, l'actualité du week-end, Loïc, marquée également par une trahison aux yeux des conservateurs, c'est celle de Chris Wallace, animateur de la chaîne Fox News.
Oui, hier, il présentait son émission hebdomadaire Fox News Sunday sur la chaîne conservatrice. Chris Wallace en était l'une des stars, un journaliste respecté d'ailleurs, y compris par un public plus progressiste, le seul vrai journaliste de Fox News, vous dirait un démocrate américain. Alors ce jour-là, fidèle à sa réputation, il ne ménage pas son invité, Lindsey Graham, une figure républicaine un peu penaud face aux questions du journaliste. Et voilà ce qu'affirme Chris Wallace une fois l'interview terminée.
Après 18 ans, c'est mon dernier Fox News dimanche. Il y a 18 ans, le patron de Fox m'avait promis que la chaîne n'interférerait jamais avec mes choix d'invités ou les questions que je pose. Cette promesse a été tenue, j'ai été libre de travailler au mieux de mes capacités, de couvrir l'actualité qui me semblait importante, de mettre nos leaders politiques en face de leurs responsabilités.
Voilà, avait-il perdu cette liberté de poser les questions qu'il souhaitait? Il ne le précise pas, mais c'est ce qu'il semble ici sous-entendre. Et pour le voir, il faudra désormais se brancher sur CNN. Voilà la trahison dont on parlait, CNN étant l'antithèse du Fox News. Cela d'autant plus que la chaîne a accru son ancrage à droite et à l'extrême droite avec des présentateurs comme Sean Hannity, un grand soutien jusqu'à la déférence de Donald Trump. Chris Wallace, lui au contraire, ne l'avait pas ménagé à plusieurs reprises lors d'interviews particulièrement mémorables. L'ex-président avait d'ailleurs accusé le journaliste d'être de gauche, d'être méchant, odieux. Sans doute la preuve, Fabienne, qu'il posait effectivement les bonnes questions.
Et puis une semaine chargée, Loïc, toujours pour le monde de la télévision américaine, avec le départ d'une autre très grande figure.
Ouais, celui de Brian Williams, animateur de la chaîne MSNBC, cette fois depuis près de 30 ans. L'émission qu'il présentait, la dernière en tout cas, s'appelle La 11e heure. Et il y a quelques jours, eh bien, voilà ce qu'il disait au moment de rendre l'antenne pour la toute dernière fois.
Ma plus grande inquiétude est pour mon pays. Je ne suis pas un progressiste ou un conservateur. Je suis en faveur des institutions. Je crois en cet endroit. Et cet amour pour mon pays n'abdique devant personne. Mais l'obscurité autour de notre village s'est étendue à la route principale, aux autoroutes, au voisinage, au bar du coin, au bowling, à l'école, à l'épicerie. Il faut le reconnaître. Il faut agir.
Un constat particulièrement sombre à 3 semaines environ d'un anniversaire assez peu glorieux pour la démocratie américaine, celui des émeutes historiques du 6 janvier au Capitole. C'est à cela que Brian Williams fait référence, aux divisions qui se sont accrues sous la présidence de Trump et qui perdurent à un pays, dit-il, qu'il ne reconnaît plus et au risque qui pèse actuellement sur la démocratie américaine.
Grand chapitre, en effet, qu'on aura largement l'occasion d'évoquer dans Un jour dans le monde. Loïc Loury avec nous depuis New York. Merci beaucoup, Loïc.
Fabienne Saintès, le 18-20.
Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, Emmanuel se trouve donc en Hongrie.
Macron, vous voulez dire.
Emmanuel Macron, j'ai dit oui, j'ai oui. Se trouve donc en Hongrie, je vais encore recevoir du courrier. Un déplacement un peu inattendu, tant ces derniers mois, le président français et le premier ministre hongrois Viktor Orban se sont opposés sur des sujets multiples. Mais la politique a ses raisons que la raison parfois ignore, et c'est votre monde d'après.
Oui, Orban-Macron, c'est un peu l'alliance de la carpe et du lapin contre nature. Les deux hommes semblent aux antipodes, se qualifient eux-mêmes d'adversaires politiques, et les dérives de la Hongrie ne se comptent plus sur l'indépendance de la justice, la liberté de la presse ou les droits des homosexuels. Mais la carpe et le lapin pourraient malgré tout faire affaire. Pourquoi ? Parce que Viktor Orban peut devenir un allié précieux pour les projets ambitieux d'Emmanuel Macron lors de la présidence française de l'Europe qui, on le sait, démarre le 1er janvier. Un allié précieux sur plein de sujets. La défense, Paris veut développer l'autonomie stratégique de l'Europe, le sujet reçoit de l'écho à Budapest et en plus les Hongrois contribuent à la modeste force européenne Takuba au Mali. L'immigration, Emmanuel Macron veut réformer le droit d'asile et surtout renforcer les contrôles aux frontières européennes. C'est une musique qui plaît aux oreilles d'Orban. Le nucléaire, Paris cherche des alliés pour faire valider par Bruxelles le classement du nucléaire comme énergie compatible avec le plan climat européen, enjeu majeur pour la France. Budapest vient justement d'obtenir un feu vert pour construire 2 centrales. Et puis Orban peut aussi aider sur l'agriculture, le numérique, voire la volonté de s'endetter pour financer de nouveaux investissements. Bref, tout compte fait, au diable l'état de droit. Il est sympa, ce Viktor.
Enfin, c'est quand même un populiste aux accents très très autoritaires, une droite radicale, voire une droite extrême, Jean-Marc.
Oui, c'est vrai, c'est pour ça qu'il fait logiquement copain-copain. Exactement, il fait logiquement copain-copain pour cette raison avec Marine Le Pen ou Éric Zemmour. Mais justement, raison de plus pour aller le voir, c'est le deuxième calcul d'Emmanuel Macron. Après le calcul européen, le calcul calcul national. C'est l'occasion de manifester de la compréhension pour les inquiétudes dont Viktor Orban est le porte-voix. La crainte d'un nouvel afflux migratoire, la crainte d'une nouvelle menace russe. Orban est né à la politique en s'opposant à la domination soviétique. Et plus encore, la crainte d'une perte de souveraineté. La peur d'une dissolution de l'indépendance nationale dans un projet supra-européen, technocratique, désincarné. Cette peur, on la retrouve dans plusieurs pays de l'Est de l'Europe, notamment en Pologne, mais elle est bien présente également au sein de toute une partie de l'électorat français. Donc pour Macron, rencontrer Orban en pleine lumière, c'est une façon d'accorder du crédit à certaines de ses préoccupations. C'est donc un message indirectement envoyé aux Français. Là, ce n'est pas « Victor est sympa », c'est plutôt « Je comprends ses inquiétudes et donc les vôtres, chers électeurs ».
Mais alors, l'ironie de l'histoire, Jean-Marc, c'est qu'Orban est lui aussi en campagne.
Oui, il y a une sorte de destin parallèle. La Hongrie s'apprête elle aussi à voter, elle aussi en avril, comme nous. Et c'est là où il y a peut-être un troisième calcul d'Emmanuel Macron en se rendant à Budapest, le coup d'après, misé sur une alternance en Hongrie. Le président français ne s'est pas contenté de rencontrer Viktor Orban. Aujourd'hui, cet après-midi, il a vu le nouveau chef de file de l'opposition, Peter Markizai, qui espère renverser Orban dans 4 mois. Markizai, c'est l'une des incarnations du renouveau à l'est de l'Europe, d'une droite classique, conservatrice, mais pro-européenne, anticorruption, respectueuse de l'état de droit. On la retrouve aussi, par exemple, en République tchèque, avec un tout nouveau Premier ministre, Petr Fiala. Une droite fréquentable, somme toute compatible avec le logiciel macronien, et preuve aussi que la dérive populiste de l'Est de l'Europe n'est pas irrémédiable. Et comme par hasard, le président français se rend à Budapest le jour même du sommet du groupe de Visegrad, ce quatuor de l'Est, Hongrie, Pologne, République tchèque, Slovaquie. Emmanuel Macron tient même conférence de presse commune ce soir avec les 4 leaders de ces 4 pays. Là aussi, c'est la stratégie du coup d'après, une façon aussi de repositionner la diplomatie française dans une zone, l'Est de l'Europe, qu'elle a un peu délaissée. Et alors là, vu comme ça, cette visite, la première quand même d'un président français en Hongrie depuis 14 ans, cette visite ne ressemble plus à des mamours avec Orban. En vrai, il n'est pas sympa ce Victor, mais ça vaut le coup de faire semblant.
Allez, le monde d'après de Jean-Marc Four, c'est tous les soirs dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup Jean-Marc, à demain bien sûr. Dans un instant, il y a le journal d'Hélène Filly et puis le téléphone sonne. Ne bougez pas.